elle les confronte pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour, nous sommes en direct de Radio Panique 104.5. Pour l'émission de Vie Féminine Bruxelles, elles en parlent encore. Alors aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière, qu'on va d'ailleurs co-animer avec Chloé.
Bonjour à tous.
Parce que entre ce 5 et 8 juin, se déroule à Bruxelles le festival Art et Alphabétisation. Et du coup, ça nous semblait vraiment intéressant de s'arrêter en fait sur l'alphabétisation d'une part, et puis le lien entre l'alphabétisation et l'accès à l'art, la créativité. Et donc aussi comment un public précaire peut avoir accès aux lieux culturels. Et donc aujourd'hui, on a 4 invités. Chloé à la co-animation qui va nous parler de son expérience professionnelle. Aurélie Ackermann et Ilse de Clercq de Lire et Écrire Bruxelles. Ilse qui est vraiment spécialiste du festival qu'il a mis sur pied, donc elle va nous en parler. Et puis Christine Duquesne de Molenbeek Formation. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous présenter, de présenter en quelques mots votre association et quelle est votre vision de l'alphabétisation.
Peut-être Aurélie Ackermann.
Mais bonjour. Ben voilà, moi, juste pour me présenter rapidement, je travaille à Lire et Écrire Bruxelles, à la régionale. Je m'occupe de sensibilisation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot-là? C'est toutes les actions qu'on peut mener, à la fois pour faire connaître la problématique aux personnes qui ne la connaissent pas. Et souvent, c'est des actions qu'on appelle dans notre jargon les actions grand public, mais aussi des actions, je dirais, plus ciblées. Par exemple, pour faire en sorte que les personnes qui travaillent avec le public alpha aient une pratique plus respectueuse de justement des difficultés qu'ils peuvent rencontrer en lecture-écriture. Je donne un exemple, c'est par exemple un travail qu'on peut faire avec des personnes qui travaillent à l'ONEM. Et ça, c'est vraiment des animations pour qu'elles puissent à la fois comprendre la problématique et puis après essayer d'adapter leur pratique pour pas exclure deux fois finalement ce public. Voilà. C'était quoi l'autre question? Pardon.
C'était un petit peu quelle est votre vision d'alphabétisation et voilà dans votre association.
Notre vision, dans quel sens?
Ah ben dans un sens large, pour vous, ça représente quoi dans votre association d'alphabétisation? Qu'est-ce que vous en avez comme vision? Grosse question.
Oui, c'est une grosse question. On n'a qu'une heure, donc je vais essayer de pas accaparer la parole parce que je dirais la porte d'entrée ou une des portes d'entrée, en tout cas à Lire et Écrire, c'est vraiment de comprendre le phénomène de l'alpha comme un phénomène social. C'est pas un destin individuel, c'est pas des personnes qui se retrouvent là-dedans parce que elles n'ont pas eu de chance, ou elles sont pas nées au bon endroit, ou elles n'ont pas été assez courageuses à l'école. C'est bien un phénomène social qui est lié déjà à des personnes qui sont exclues à la base, dans bien des, j'allais dire, des compartiments de la vie, que ce soit des exclusions sociales ou culturelles. Et c'est aussi le résultat, quand on prend par exemple le public qui a été scolarisé en Belgique, c'est le résultat d'une certaine forme d'échec de notre enseignement obligatoire, mais c'est aussi le résultat d'inégalités criantes dans certains pays où notamment les femmes, puisqu'on en parle dans cette émission, n'ont pas assez accès à l'école là où les petits garçons sont scolarisés. Enfin voilà, c'est donc pour nous ce qui nous semble important, c'est l'alphabétisation, c'est avant tout un phénomène social, donc qui a plusieurs visages. Et donc le but d'une action d'alphabétisation, c'est apprendre à parler, lire et écrire pour réussir un projet ou pour aller vers un projet. C'est pas apprendre une langue en soi comme quelque chose de technique, mais c'est bien inscrire nos actions dans des démarches d'émancipation et de prise de pouvoir à la fois sur sa vie et à titre personnel, individuel, et puis collectivement prendre sa part comme citoyen à part entière. Voilà.
On peut continuer la présentation avec Else De Clercq, qui travaille aussi à Lire et Écrire Bruxelles.
Je me disais peut-être plus alors avec en lien, Lire et Écrire en lien avec l'organisation du festival.
Mm-hmm, tout à fait. Donc voilà, moi je travaille au service communication de Lire et Écrire Bruxelles, et avec ma collègue Caroline, depuis quelques mois, on pilote un peu l'organisation de ce grand festival, qui est parti d'un constat, c'est que, d'abord d'une réalité, c'est que dans les cours, dans les processus d'alphabétisation, on n'apprend pas seulement à lire et écrire, on s'ouvre aussi à d'autres pratiques, à d'autres horizons, et les démarches créatives sont une partie de ces horizons qui s'ouvrent à eux. Et donc le constat, c'est qu'il y a ces processus donnent fruit à des réalisations artistiques collectives, hein, donc c'est bien des processus de créativité qui se font en groupe, donnent fruit à des réalisations qui sont souvent de qualité, qui sont très intéressantes, où il y a eu un processus intéressant, mais où il y a aussi un résultat, donc artistique, donc ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un film d'animation, ça peut être un travail photographique ou textile, enfin il y a une grande diversité de projets, et on s'est dit, bon, ces œuvres, quelque part, ne sont pas montrées, ou si elles sont montrées, elles sont montrées dans des petits entre-nous en fonction des moyens qu'ont les associations. Et alors, on avait un peu envie de profiter de cette position qu'on a au niveau de Lire et Écrire Bruxelles, donc une position régionale, pour inviter toutes ces associations qui mènent les projets à, ensemble, monter cet événement collectif dans plusieurs lieux à Bruxelles. Et donc, l'idée, c'était bien ça, c'était de sortir de la confidentialité pour aller vers d'autres lieux, pour aller vers un autre public, en tout cas d'élargir ce public qu'on a voulu le plus large possible, pour quelque part donner une portée plus large aussi à la parole des apprenants, à l'expression des apprenants, et pour que cette parole puisse aller se frotter à l'autre, quoi, aux autres, à ce public, à ces lieux culturels qui sont des lieux un peu phares, entre guillemets, qui sont des lieux culturels reconnus et connus. Donc voilà. Voilà en gros un peu les... d'où vient ce festival qui a été monté, donc nous on l'a piloté depuis Lire et Écrire Bruxelles, mais ce festival n'existerait pas s'il n'y avait pas eu tant de partenariats. D'abord, au total il y a 34 associations de formation à Bruxelles, donc en alphabétisation, qui participent au festival, donc qui vont présenter des projets, donc c'est important. On estime qu'il y a autour de 200 associations à Bruxelles qui font de l'alphabétisation, et puis pour une première édition, de savoir qu'il y a plus d'une trentaine qui participent, c'est je trouve une réussite. Donc 34 assos qui au final vont présenter près de 70 projets. Donc de disciplines très diverses. Et puis voilà, il y a aussi la richesse de ces partenariats avec des lieux culturels. Et puis au cœur de tout ça, plusieurs centaines d'apprenants, donc plusieurs centaines d'adultes qui se sont lancés dans l'aventure. Donc voilà, il y a vraiment un tissu de liens et de collaboration en tous sens. Et ça, je crois que c'est aussi la grande richesse de ce projet.
Merci, on y reviendra plus longuement dans la deuxième partie de l'émission. Et donc, également Christine Duquesne de Molenbeek Formation qui participe au festival. Christine, tu es coordinatrice de Molenbeek Formation?
Oui, c'est ça. Donc, je suis coordinatrice de Molenbeek Formation qui est, situé à Molenbeek, comme son nom l'indique, et qui fait principalement du français langue étrangère, aussi de la formation professionnelle en horeca, mais là, pour le projet qui nous occupe, là, c'est essentiellement le français langue étrangère. Donc, on travaille avec des adultes qui sont débutants en français. Donc,
peut-être, c'est en quelques mots, est-ce qu'on peut faire la distinction entre l'alpha et le FLE, pour ceux qui ne connaissent pas ?
Oui, alors, en fait, je dirais que le public, en gros, est le même, je dirais, de par sa situation sociale, ses origines. C'est vraiment une question, je dirais, de cases par rapport notamment à nos pouvoirs subsidiants. Donc, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais
je croyais que l'alphabétisation, c'était des personnes qui ne savaient pas lire et écrire,
voilà,
dans leur langue
bien
d'origine.
Bien sûr que c'est ça, hein, mais il y a différents degrés, je dirais, dans l'alpha. Chez nous, en français langue étrangère, donc on est dans une catégorie où le public, en tout cas, ne peut pas avoir le CEB. Hein, ce qui le met comme donc c'est un public qui est infrascolarisé au départ. C'est vrai que chez nous, les prérequis sont de quand même maîtriser l'alphabet, grosso modo, donc savoir déchiffrer même sans comprendre, écrire même sans comprendre.
Ce qui n'est pas toujours facile pour des arabophones.
Voilà, donc la frontière finalement est assez floue, et nous en tant que centre de formation en français langue étrangère, on fait partie d'ailleurs de la plateforme zonale de lire et écrire, puisqu'on est tout le temps en lien et qu'il y a vraiment des passerelles entre les deux.
Et peut-être la même question hein, qu'Aurélie Ackermann. Quelle est la vision de l'alpha ou du FLE chez Molenbeek Formation?
Chez nous, clairement, je pense que c'est au-delà de l'apprentissage proprement dit, c'est vraiment la porte à d'autres possibles. C'est vraiment sortir de l'isolement, c'est entrer en lien avec les autres, c'est tous ces aspects, j'aime pas trop le mot de resocialisation, mais qui sont primordiaux. Et c'est vraiment le premier pas, je dirais, souvent pour beaucoup de nos apprenants, pour envisager effectivement d'autres possibles et rencontrer d'autres personnes et élargir leur champ de possibilités. Et à ce niveau-là, c'est vraiment, oui, c'est primordial. Et effectivement, comme le disait Aurélie, moi je refuse aussi de voir les apprenants comme ce public un peu, cette vision un peu misérabiliste de gens... complètement largués. Bon, c'est vraiment des gens qui ont une part dans la société, qui ont leurs pieds dans la société, qui participent et dont on n'entend malheureusement pas assez la voix.
Alors, vous en avez un tout petit peu parlé, mais moi, je me demandais si les processus d'alphabétisation, c'est quelque chose, une démarche différente pour un homme ou pour une femme. Si la façon d'approcher l'alphabétisation est différente pour un homme ou pour une femme?
Oui et non. Je dirais que, en tout cas, je ne vais pas parler pour tous les organismes de lire et écrire, je vais vraiment parler pas de mon expérience personnelle. C'est vrai que nous, on travaille avec un public mixte, ce qui n'est pas le cas de toutes les associations, bon, pour différentes raisons. Je dirais que pour les femmes, l'enjeu est peut-être plus important parce que elles sont souvent beaucoup plus isolées. Elles sont souvent très enfermées dans la sphère familiale. Donc la possibilité d'entrer dans une formation, c'est déjà une première porte de sortie, je dirais. Une possibilité de rencontre avec d'autres. Et le pas parfois à franchir est beaucoup plus dur pour elles, où les hommes ont quand même une vie sociale plus importante en général. À ce niveau-là, oui, il y a une différence. Par contre, une fois qu'elles ont fait ce pas, je dirais que parfois elles sont encore plus volontaires, plus une motivation vraiment assez exceptionnelle. Enfin, je ne vais pas faire de généralité parce que la motivation est lâchée les hommes aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est probablement plus difficile pour beaucoup d'entre elles.
Un mot sur ça, Aurélie?
Oui, mais aussi en faisant appel à mon expérience personnelle, puisque j'étais auparavant moi-même formatrice, ce que je constatais, c'est que... dans, j'allais dire, la façon d'apprendre, je pense, moi, je n'ai jamais vu de différence entre un homme et une femme. En revanche, dans les parcours, effectivement, pour arriver à l'alpha, j'ai vu beaucoup de femmes qui arrivent inscrites par leur mari, beaucoup de femmes qui arrêtent parce que le mari n'est plus d'accord. Voilà, donc, plus des différences de cet ordre-là, où on sent, enfin, en tout cas, à nouveau, sans faire de généralité, mais chez certaines femmes, en tout cas, une dynamique de non-mobilité ou de non-liberté, liberté assez importante et qui a un fort retentissement, notamment sur leur parcours pédagogique. Beaucoup aussi, et moi j'ai jamais vu, j'ai, dans tout, j'allais dire ma carrière, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin de formatrice, j'ai vu énormément de femmes qui venaient en disant « je voudrais apprendre parce que mes enfants rentrent à l'école primaire et je vais devoir les suivre et lire le journal de classe. » Je n'ai jamais rencontré un homme dont c'était la préoccupation. Donc il y a vraiment un partage, on voit très fort aussi, c'est ça que nous disent les femmes. Finalement, ce qu'elles nous racontent, c'est le partage des rôles et des responsabilités au sein de la famille. Donc elles ramènent un peu de leur vie privée comme ça dans les cours, y compris déjà dans leur motivation à suivre des cours. Donc moi, voilà, c'est cette différence-là, en tout cas, qui me saute aux yeux.
Ce qui fait que parfois, c'est plus difficile pour elles, du coup, de suivre aussi ces cours, liés à la garde d'enfants.
Alors, effectivement, et tu fais bien d'en parler, c'est vrai qu'il y a énormément de femmes, jeunes mères, soit qui étaient en formation, j'en ai connu, qui étaient enceintes en formation, qui ont dû arrêter parce qu'elles n'avaient pas de garderie pour les enfants. Et puis, effectivement, souvent, il faut organiser les cours. Alors, j'ai aussi une autre expérience professionnelle, puisqu'à un moment, j'étais coordinatrice pédagogique dans une des locales de Lire Écrire Bruxelles, où quand on savait qu'on avait un groupe principalement de mamans, d'enfants scolarisés, on faisait presque l'horaire à la carte, pour être sûr que ces mamans puissent être à l'aise à la fois pour venir au cours et puis ensuite aller chercher les enfants à l'école. Voilà, c'est clair que leur vie, pour certaines en tout cas, est très fort organisée autour de des horaires et des contraintes des enfants.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Mais pour terminer le tour de table, j'aurais bien quand même voulu que Chloé se présente.
Avant la pause musicale. Donc, peut-être vous avez déjà entendu ma voix. Je suis animatrice régulièrement sur Radio Panique. Mais je viens aussi aujourd'hui en tant que médiatrice culturelle, puisqu'on a travaillé ensemble avec Molenbeek Formation. Et de manière générale, je travaille au Musée Royal des Beaux-Arts pour le programme Sésame. Le programme Sésame, c'est un programme qui va avoir 10 ans, qui a été créé par une historienne de l'art, Anne Kéringent, et qui s'adresse aux associations sociales et socioculturelles ou communautaires. Donc, c'est un public très, très large. Au musée, on accueille aussi bien des personnes en alphabétisation, donc ça fait partie, on a des partenaires forts dans ce milieu-là, aussi des primo-arrivants, des adolescents mineurs non accompagnés, des enfants en alphabétisation, des gens de la rue, puisque le programme s'est monté avec le mouvement international ATD Quart-Monde. Voilà, on accueille les gens au musée, on va aussi dans les associations. Je pense qu'on aura le temps dans l'émission de détailler un peu plus le contenu du partenariat qui nous a lié à Molenbeek Formation, avec beaucoup de déplacements. L'idée, c'est de sortir aussi du musée pour aller à la rencontre des personnes. On se rend compte que c'est essentiel pour les inviter par la suite à y entrer.
Ok, alors on va faire une première pause et puis on va détailler tout ça.
Première pause musicale avec Renata Rosa, qui est une magnifique brésilienne violoniste et chanteuse qui travaille notamment avec les Indiens du nord-est du Brésil. On l'écoute avec le morceau La... Ouais, le dira mieux que moi. Oi laranjeira, oi
laranjeira, oi laranjeira, oi laranja. Voilà, nous sommes de nouveau en direct sur Radio Panique
105.4.
Merci. Je vais y arriver.
On est sur le 105.4.
L'émission de Bifumine Bruxelles, elles en parlent encore. Alors, je me disais que l'accès à l'art, c'est comme ouvrir l'accès à la lecture et l'écriture. C'est, je me disais, c'est probablement prendre distance. Avec le réel, la quotidienneté des choses, quand on peut le lire, quand on peut l'écrire ou quand on peut le représenter, ça permet sans doute de prendre la distance et de prendre aussi de la hauteur de l'aile, d'aller vers d'aller vers autre chose. Je me disais, est-ce qu'il y a des techniques particulières, artistiques, pour s'adapter à un public d'alpha? C'est une question, comme ça. Je me dis.
Il y a certainement des techniques privilégiées. Bon, on pense peut-être directement à l'écriture, mais est-ce que l'écriture, en effet, est le plus pertinent ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?
En tout cas, du point de vue du. Finalement, ce festival est quelque part un bon observatoire, même si évidemment on n'a pas la prétention d'avoir récolté tous les projets qui se sont passés en alphabétisation, mais ça permet en tout cas d'avoir un échantillon assez. Enfin voilà, un observatoire de qu'est-ce qui se passe au niveau créatif, artistique, expression culturelle en alpha. Et notre grande surprise, parce qu'on a fait un appel à projets hein, pour pouvoir identifier tous ces projets, notre grande surprise, c'est qu'il y a une très grande diversité de pratiques justement. Et donc, moi je pense que c'est pas le fait que la technique en soi soit appropriée, c'est plus comment est-ce qu'on met en place le processus, c'est plus au niveau de comment est-ce qu'on va animer ces ateliers, de comment on va amener cette pratique, comment on va la rendre accessible, comment on va l'expérimenter en collaboration avec le formateur, parce que ce sont des artistes, mais qui sont aussi en binôme, je veux dire, avec les formateurs qui sont garants un peu du processus d'apprentissage. Mais au niveau technique, pratique, je l'ai dit tout à l'heure un peu, mais il y a du film d'animation, de la vidéo, du théâtre, théâtre d'ombre, du textile, plastique, photographie, peinture, gravure. Il y a vraiment une très grande diversité de projets, et ça, je trouve, c'était vraiment une belle surprise, quoi, de se dire waouh, il y a vraiment tout ça, quoi. Et donc.
Puis alors, la question subsidiaire, un petit peu femme, entre guillemets, c'était de se dire tiens, est-ce que toi, tu as remarqué qu'il y avait des techniques qui étaient plus prises par les groupes de femmes que par les groupes mixtes
En tout cas, donc il y a en effet plusieurs projets qui ont été portés par des groupes de femmes. Hein. Je pense par exemple au projet de la Maison des Femmes de Forêt, où là, elles sont sur un projet de récupération, donc récupère, donc c'est récupération de vêtements, mais pas que, il y a aussi un peu du plastique, l'art plastique, mais essentiellement, en effet, le vêtement, le texte écrit sur les vêtements. Je pense à d'autres projets de la Maison Mosaïque de Laeken et d'Etterbeek, hein, de Vie Féminine, qui ont fait tout un travail plutôt textile. Donc là où elles sont sur la couture, mais pas que, elles ont aussi écrit des revendications qui ont été brodées ensuite sur le tissu. Donc c'est vrai que peut-être, maintenant que vous me posez la question, il y a peut-être ce fil conducteur du fil, du textile, du fil, de la transmission aussi de qui je suis, de transmission de son histoire, de soi dans ce textile où je pense aussi à un travail autour du batik, où il y a eu la projection de tout un univers personnel sur des carrés qui ont été mis après ensemble dans une œuvre collective. Donc voilà, c'est aussi une façon de valoriser qui on est, ce qu'on a appris, notre culture, et peut-être, je ne veux pas tirer de généralité, mais que les femmes ont ce lien au fil, quoi.
C'est justement l'animatrice du projet Batik qui m'avait expliqué un jour qu'elle considérait, maintenant c'est à prendre, ce n'est qu'un point de vue, que pour permettre aux femmes d'appréhender l'art, il fallait partir du quotidien, donc du tissu, des choses. Et elle disait, c'est même pas des tissus nobles que j'utilise, c'est des tissus du quotidien qui viennent de l'intérieur de chacune des femmes. Voilà.
Alors, Aurélie ?
Oui, moi je voulais, parce que j'aimais bien cette dimension que tu donnais en disant aller vers des pratiques d'expression artistique, c'est prendre de l'air, s'éloigner un peu du quotidien. Et puis, alors il y a effectivement ce mouvement d'expansion. Et puis en même temps, c'est partir de soi. Voilà, pour moi, c'est un double mouvement qui me semble extrêmement important de souligner. C'est partir de soi, qui je suis, quelle est ma culture, effectivement, dans mon quotidien, quelles sont les choses qui me touchent, hein, ou qui me touchent dans tous les sens du terme, hein, à la fois au positif et peut-être au négatif. Et donc, c'est aussi, puisque justement, alors c'est peut-être le paradoxe, mais ça n'en est pas un, c'est que parce que toutes ces personnes qui sont dans des formations alpha sont en train d'apprendre malgré tout une langue qui n'est pas la leur, que ce soit pour le parler, le lire ou l'écrire, c'est aussi pouvoir s'exprimer indépendamment de la langue, au travers de quelque chose qui va leur permettre de prendre des raccourcis pour l'expression. Et c'est aussi soutenir la démarche interculturelle, puisque ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, et je pense que c'est assez bien partagé dans les groupes d'alpha. Else le soulignait, c'est bien des projets collectifs, donc on n'est pas en train de, j'allais dire, de mettre en lumière des artistes individuels, c'est pas du tout le propos hein, dans ces démarches qui sont mises en œuvre, mais bien comment collectivement, donc à la fois chacun part de lui, mais dans le pot commun, si je puis dire, une part de qui il est, une part de sa culture. L'artiste qui a collaboré avec ses groupes, lui, vient avec un média, un support. Et c'est tout ça qui va permettre, effectivement...
Justement, peut-être on peut rebondir sur l'exemple qui a lié le programme Sésame des Musées Royaux des Beaux-Arts avec Moulinbec Formation. Quelle présentation générale, tu en donnerais, Christine ?
Alors, de manière générale, pour nous, c'est vrai qu'on a un partenariat privilégié avec Sésame depuis 2007, je pense, par des animations dans et autour du musée, qui étaient plutôt des animations, je dirais, ponctuelles. Et là, en 2011, on s'est vraiment attelé à ce gros projet qui était à visage découvert, ce que le portrait dit de moi et des autres. Donc, c'était vraiment à travers les portraits, les tableaux des musées d'art anciens, les apprenants se sont vraiment appropriés ce thème du portrait, le visage dans la peinture, mais leur visage à eux, le visage des autres. C'était vraiment cette espèce de regard croisé entre les œuvres d'art et leurs propres émotions, leurs propres vécus. Et là aussi, il y avait vraiment cet échange de... à la fois dans l'espace, donc je dirais les différentes cultures, mais aussi dans le temps, puisque c'était les portraits des musées d'art ancien. Et ça a vraiment apporté, je ne sais pas, une manière de... Je ne sais pas comment exprimer ça, c'était tellement riche.
Bon, on va pouvoir vraiment... voir hein, par la suite les impacts.
Voilà, ils ont vraiment, à partir de ça, réalisé
des œuvres plastiques.
Des œuvres plastiques, que des prises de parole, des photos. Ils se sont vraiment mis en scène dans le tableau. Et ça a donné lieu, enfin, on pourra le voir au Brass, des réalisations assez extraordinaires.
Assez multiples. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Il y a aussi un DVD qui a été réalisé par donc, le programme Sésame et Moulinbec Formation en partenariat, destiné aux formateurs en alpha et en FLE, avec cette idée de, oui, engagez-vous dans des projets culturels, alors que ce soit les Musées Royaux des Beaux-Arts ou avec d'autres institutions culturelles. On peut peut-être écouter donc, un montage sonore où on va entendre Hakim, qui est un apprenant de Moulinbec Formation qui a participé à ce projet à visage découvert, ce que le portrait dit de moi et des autres. On va également entendre tes collègues, Rokia
et Natacha, qui sont vraiment elles qui ont porté le projet.
Qui sont formatrices. Et Anne Keringean, la coordinatrice du programme Sésame.
Personnellement, le projet m'a plu beaucoup parce que quand j'étais au Maroc, ma femme ici m'a raconté beaucoup de choses sur la Belgique, sur la culture de la Belgique. Mais je ne croyais pas que je passe des moments comme ça parce que c'est la première fois que je vois des tableaux, des grands tableaux comme ça de toute ma vie. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. On a su comment lire un tableau, comment imaginer une histoire, dessiner, comment décrire un portrait.
On a toujours voulu mettre plus de culturel dans nos cours parce que nous sommes persuadés que la culture ouvrait de nouvelles portes.
Je m'appelle Anne Keringean, je suis historienne de l'art et je suis coordinatrice du programme Sésame, Musée Ouvre-toi au Musée Royaux des Beaux-Arts. Je dirais que ce qui est en jeu et qui est le plus visible, c'est la rencontre. C'est la rencontre entre des mondes qui parfois s'ignorent, Donc on a chacun nos spécificités, les partenaires culturels ont des logiques et des manières de concevoir les choses, et puis les logiques des formateurs, il y a aussi ce monde social qui fonctionne et qui est aussi parfois très lourd. Et donc ici, on peut vivre des moments de plaisir, des moments d'émotion, des moments de rencontre, et alors ça crée des liens. De plus en plus, je suis frappée de voir comment la culture relie les personnes entre elles, relie la personne avec elle-même, relie la personne avec un projet, avec la société dans son ensemble. Et donc, pour moi, le musée, eh bien, il a ce rôle-là. C'est un lieu de vie inscrit dans la ville. Il est particulier, il a ses barrières. C'est vrai, il y a des codes, il y a des clés à détenir. Et nous, on est là pour faciliter cette rencontre et créer du lien.
Mais nous-mêmes, nous avons été fort surprises de voir avec quelle envie, quel bonheur les stagiaires participaient à un atelier créatif. Donc moi, je suis Natacha, formatrice en français et langue étrangère. Vraiment, on aurait pu croire qu'ils l'attendaient et que ça leur a permis de faire passer des choses qu'ils ne savaient pas faire passer avec les mots. Ils ont découvert qu'avec la créativité, on pouvait exprimer plein de choses. On pouvait utiliser d'autres outils pour parler, s'exprimer, raconter, se sentir bien.
Je m'appelle Rokia Bamba et je suis formatrice en français langue étrangère depuis 6 ans maintenant à Molenbeek Formation. Ça fait vraiment vivre la classe autrement, ça les fait réagir autrement et ça les fait communiquer autrement. C'est le plus beau des cadeaux pour un professeur. Enfin, un projet comme ça suscite cette cohésion. C'est incroyable.
Et donc, un cadeau pour le formateur. Voilà, ça, c'est déjà une première chose pour rentrer dans le débat.
Un cadeau pour le formateur et je crois aussi pour les partenaires culturels, en fait. puisque les apprenants portent leur regard aussi sur ce qui est proposé par l'institution. Bon, là, en l'occurrence, sur des portraits du 15e ou 19e siècle. C'est une richesse, je crois, qui est partagée. Et Anne Kerenjean parle de la rencontre entre deux mondes qui s'ignorent. Bon, il y a des volontés d'aller les uns vers les autres, mais c'est vrai que chacun est pris dans des contraintes qui, parfois... voilà, sont difficiles à dépasser. Je pense notamment au monde social. Alors, je ne sais pas, par rapport à ça... bon, là, en l'occurrence, elles ont été dépassées, hein, ces contraintes. Lesquelles vous voyez, enfin, vous qui avez mis en... Je ne sais pas si on peut dire que c'est vous qui avez mis en lien ces partenariats sociaux et culturels. Vous êtes là juste pour les valoriser.
Oui, c'est ça. Donc nous, on est là juste pour les valoriser. Je crois que ce genre de projet est mené dans les associations depuis longtemps. Et on n'a pas... Les associations, bien sûr, et heureusement, n'ont pas attendu ce festival pour être dans ces dynamiques-là. Que les partenariats existent depuis longtemps et sont très divers. Tu disais, il y a des opérateurs artistiques, donc ça peut être un musée, ça peut être un centre culturel, mais ça peut aussi être des artistes à titre individuel. Hein. Donc là aussi, il y a une grande diversité. Mais donc, c'est très intéressant déjà d'être dans ce croisement de regards-là. Après, y en a d'autres. Il y a aussi comment est-ce que moi, en tant qu'apprenant, porteur de ma culture ou des cultures qui me traversent, je vais aller me confronter à celle d'un lieu comme les musées royaux des Beaux-Arts ou même comme le Wills, par exemple, qui est un des lieux qui va accueillir le festival. Donc tu disais, il y a des volontés d'aller les uns vers les autres et en même temps, c'est pas évident. Et il y a des contraintes, bien sûr. Un lieu comme les musées royaux, comme le Wills ou... comme à peu près tous les lieux culturels à Bruxelles, c'est effrayant. Enfin, c'est effrayant. En tout cas, je connais pas. Moi, en tant qu'apprenant, je connais pas. Je sais pas ce que c'est.
Alors, en tant qu'apprenant, c'est ma place. Et parfois même en tant que formateur.
Oui, c'est ça.
Il y a ce travail aussi à faire par les opérateurs culturels. Et c'est un travail que fait Sésame depuis très longtemps à travers ce qu'on a appelé les rencontres Sésame, qui s'adressent justement aux formateurs en alpha, aux éducateurs, aux psychologues, aux assistants sociaux. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas forcément cette démarche vers les lieux culturels. Et l'idée, c'est allez, de proposer, d'imposer, de donner le goût et, à ses partenaires sociaux d'utiliser les musées comme ressources.
Et ça me donne envie de rebondir peut-être sur, je ne sais pas comment on appelle ça, mais une après-midi de réflexion qui porte comme titre « Le rôle des arts dans une démocratie inégalitaire ». Ça veut dire qu'il y a, je pense qu'il y a vraiment d'autres enjeux que juste pousser la porte d'un musée. C'est tout ce qu'il y a derrière qui est important. Dans la petite capsule sonore, il disait aussi que c'était aussi la culture, l'accès à la culture qui reliait les personnes, voire dépasser sa culture individuelle pour aller vers la culture, pour relier des personnes.
Entre elles et avec elles-mêmes, c'est ce qui est dit.
Donc, Ilse, tu avais envie de parler peut-être de cet après-midi-là?
Le rôle des arts dans une démocratie inégalitaire.
Je vois qu'Aurélie...
Vous avez tous les deux envie de parler.
Depuis tout à l'heure. Mais non, je laisserai la parole à Else pour parler peut-être un peu plus de ce moment d'échange-débat. Mais auparavant, justement, je voulais juste revenir deux minutes sur la capsule, parce qu'il y a trois mots, moi, qui me sont vraiment... qui m'ont sauté aux oreilles. Il y a cohésion, ça c'est la fin du... Le dernier mot de la formatrice dont j'ai oublié le nom,
Rokia Bamba. Voilà.
Et puis Anne Kerringen parlait de la dimension du plaisir et bon, bien sûr de l'expression, bon, ça, on a déjà évoqué ça tout à l'heure, mais je me disais et tu parlais ici de la dimension interculturelle, effectivement, mais un des principaux buts, enfin, au-delà des productions, c'est être ensemble avec cette dimension de plaisir, avoir quelque chose à partager mais qui fait du bien. Et donc je pense que, et on le voit très fort dans les groupes d'alpha, puisque même si effectivement on n'a pas cette idée que c'est des pauvres gens qui sont malheureux, mais j'ai quand même parlé de cette dimension exclusion sociale, et ça va refaire le lien avec l'échange débat, donc des sociétés éminemment inégalitaire, mais que les personnes, dans le cadre de la formation, puissent construire du lien au-delà de ces difficultés pour partager des moments de plaisir et de découverte qui font du bien. Je trouve que, alors sans doute qu'au niveau de la cohésion, effectivement, ça joue très très fort, quoi. C'est vraiment, c'est un lien solide là qui se crée dans les groupes, quoi. Mais c'est juste ça que j'avais envie de relever par rapport, de façon générale, à ce recours qu'ont certains groupes à s'inscrire dans des ateliers d'expression artistique.
Et oui, donc voilà, pour revenir à cet après-midi du mercredi 6. Donc l'idée, c'était pas, enfin en tout cas avec ce festival, c'était pas uniquement de montrer des choses, c'était aussi d'être dans une dynamique d'échange, de réflexion, de ensemble se poser des questions. Et donc ce mercredi après-midi est consacré à ça. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le rôle des arts dans une démocratie inégalitaire. Avec comme sous-titre, l'alphabétisation et les arts ont beaucoup à se dire. Mais donc voilà, il y a tant de choses qu'on peut sur lesquelles on peut agir avec ce genre de projet, enfin agir ou pas, on peut aussi être dans le plaisir, il y a plein de dimensions.
J'irais mettre en jeu,
voilà. Et Chloé, tout à l'heure, tu parlais du lien ou du rapport qu'il peut y avoir entre une institution culturelle comme les musées royaux des Beaux-Arts et des adultes en formation. Mais je pense que là, il y a déjà... Enfin, pour moi, là, je prends une casquette très personnelle pour réagir, mais qu'il y a en effet ce mouvement. Donc comment est-ce qu'en tant que public qui n'a pas forcément accès à ce genre de lieu, comment est-ce qu'on va faciliter cet accès? Comment on va travailler sur ce lien-là? Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre sa place dans ce lieu qui finalement appartient... à tous en tant qu'institution publique. Donc ça, c'est un premier mouvement important, je crois, dans le travail qu'on a à faire avec la culture. Mais pour moi, il y en a aussi un autre. C'est comment est-ce qu'on va valoriser la culture des gens? Comment est-ce qu'on va aussi mettre en lumière, ou comment est-ce qu'on va valoriser les cultures dites
populaires,
dites minoritaires, dites... voilà, être vraiment dans cette démocratie culturelle, donc de valoriser les expressions culturelle des gens, et d'être, parce que je pense que la culture, c'est ces deux mouvements là et donc il y a à la fois aller vers ces institutions culturelles avec un grand C, comme on dit, mais aussi comment est-ce qu'on valorise la culture des gens, et comment est-ce que se rencontrent finalement ces deux visions. Donc voilà, je pense que la réflexion du mercredi après-midi ne se cantonnera pas à ce que je viens d'évoquer. Ça sera, je pense, assez large. Ça va concrètement, on va partir de d'expérience de terrain. Donc il y aura des associations d'alphabétisation et leurs partenaires artistiques qui seront là pour parler de projets de manière concrète, donc de terrain. Et puis après, il y aura des intervenants plus... entre guillemets experts, hein, mais experts de terrain aussi hein, par ailleurs, mais qui vont un peu je veux dire, poser les questions sur les enjeux qui traversent tout ça et peut-être prendre un petit peu de recul pour être alors sur une réflexion hein, peut-être un peu plus analytique. Mais l'idée, c'est bien de débattre avec la salle, hein, donc ça ne va pas être un exposé magistral, donc c'est vraiment tous ensemble en tant que porteurs d'expérience ou de pouvoir partager là-dessus. Mmh.
Ça me donne envie d'écouter la capsule de Christelle Lovaux, donc qui travaille à la Maison des Cultures et qui me parlait hier, je pense, de son travail d'ouverture d'un lieu à un public fragile. Et là, elle me parlait même spécifiquement de comment ouvrir la porte aux femmes.
Moi, je dirais qu'il y a au moins deux voies d'accès qui sont utilisées par la Maison des Cultures. Qui reviennent à nouveau à la base, qui est quels étaient les besoins des habitants ici à Molenbeek. Et une des choses criantes était le manque d'ateliers pour les tout-petits, par exemple, le manque de lieux de stage aussi, en tout cas dans le domaine créatif. Hein. Et donc, on a commencé à développer ça. Donc ça, c'est un biais, je vais dire, où là, par le fait de répondre à une demande, on rencontre des enfants et forcément, on rencontre leurs parents. Ces familles-là, on leur propose des spectacles, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour eux. Et la deuxième façon de travailler aussi, en tout cas moi c'est celle que je préfère et que je trouve qui fonctionne le mieux, c'est vraiment créer un lien de confiance à nouveau en partant de la demande. Donc je donne un exemple, dans le cadre de la journée de la femme du 8 mars, on a accueilli, c'était un partenariat entre autres avec la Maison de la Femme, mais aussi des associations congolaises, le PAC, etc. Et donc, ils ont créé une programmation et l'après-midi était vraiment dédié à quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touchée, qui était des remerciements. Vraiment été de l'ordre d'un dialogue super beau, quoi. Puis tout le monde a mangé ensemble. Et puis le soir, était prévue une pièce de théâtre qui s'appelait La Kaina. Et un concert d'une chanteuse congolaise vraiment très intéressant. Eh bien, les femmes de la Maison de la Femme sont revenues le soir, pas toutes, mais au moins la moitié, sont revenues le soir voir tout ce spectacle. Et c'était une fête vraiment très agréable. Et donc, je pense qu'il y a de l'ordre de... il faut toujours faire attention, je crois, de ne pas être une navette spatiale et donc de ne pas arriver pouf comme un ovni, mais de vraiment essayer de... En quoi est-ce qu'on peut rendre service? En quoi est-ce qu'on peut être un lieu accueillant? Et puis après, proposer soit des choses qui sont plus faciles dans le sens plus connu, avec des petites influences plus originales ou plus nouvelles aussi. Et puis il y a une dernière façon de faire, mais... Pour le moment, moi, je ne la trouve pas encore tout à fait au point, qui est d'aller dans les structures associatives, par exemple avec un artiste, ou que ce soit moi qui le fasse, et aller expliquer le spectacle, donner des codes, qu'un lien de confiance se passe aussi avec l'artiste. Mais là, je pense qu'il y a encore de la réflexion pour voir exactement comment amener ce type de lien. Tandis que là, quand on répond quelque part à une demande, de est-ce qu'on peut utiliser le lieu et qu'on a vraiment un accueil dans ce cadre-là, c'est tout à fait différent. Là, il y a en effet des femmes que je reconnais, qui me reconnaissent, des envies de travailler ensemble, je veux dire là plus au niveau des formateurs, mais même au niveau des habitantes. Pour moi, c'est la boucle est bouclée comme ça. Ça ne sera pas toutes les personnes qui souhaiteront ça, c'est clair. Mais je crois que c'est vraiment le côté que les expressions culturelles de chacun trouvent une place ici et de toujours penser que la culture est un concept très très vaste qui ne s'arrête pas du tout à une salle de spectacle mais qui est vraiment de l'ordre des codes, des normes, des modes de dialogue entre les personnes aussi et de beaucoup de confiance, d'explications, de mots à passer entre les personnes, quoi. Voilà, avec plaisir.
En direct de Radio Panique, l'émission Elles en parlent encore. Bon, après cette belle cellule sonore, on va quand même repasser, je pense, aux choses concrètes de ce festival de 3 jours. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est 3 jours ?
Ah, mais je pense qu'il faut bien rappeler, ou en tout cas le dire si ça n'a pas encore été dit, que c'est la première fois qu'on organise ce festival, que c'est une première édition, que c'est parti d'une envie, et puis que ça a pris forme rapidement, et ça a pris une forme d'ailleurs très... Enfin voilà, ça a pris beaucoup d'ampleur, ça a réveillé beaucoup d'enthousiasme, mais voilà, ça restait une première fois, et donc on a été à la fois dans un mouvement d'ouverture et d'emballement, et puis en même temps dans un mouvement de rationalisation, de « oulala, bon, c'est la première fois qu'on le fait, on va essayer de le faire bien, de le faire en grand, mais en même temps en balisant un minimum », et je crois que bon, voilà, 4 jours, c'est aussi... ça aurait pu être plus long, et en même temps, il me semble que c'est déjà bien, et c'était lié aussi à la disponibilité des lieux, à la, enfin, il y avait toute une série de paramètres à prendre en compte, et voilà comment, en tout cas, cette année, on a, voilà la formule à laquelle ça aboutit, quoi.
Et comment ont réagi d'ailleurs les lieux culturels qui accueillent, il y a combien de, il y en a 5, 6?
6 lieux.
6 lieux, que tu peux peut-être citer, mm-hmm. Et comment ils ont réagi à la proposition?
Donc les 6 lieux, c'est la Maison des Cultures de Molenbeek, hein, dont on vient d'entendre Christelle qui travaille là-bas, qui a porté ce projet avec nous. La Maison des Cultures qui a un statut un petit peu particulier par rapport aux autres lieux qui accueillent, parce qu'ils ont été vraiment à l'origine du projet avec nous. On a construit ce projet avec Christelle pendant plusieurs mois, et puis une fois que ce projet avait une forme, quoi, on a contacté les autres lieux qui sont le Wills, hein, à Forêt, le Brass qui se trouve à côté du Wills, la maison...
Nous allons exposer...
Tout à fait, où sera exposé...
Avec Molenbeek Formation et les musées royaux.
Voilà, tout à fait, donc à visage découvert.
La maison du livre.
La maison du livre à Saint-Gilles, la maison de la création à Laeken et les ateliers de la banane, qui est un centre d'expression et de créativité à Saint-Gilles.
Ouais, il y a quand même... Bon... la plupart des lieux sont quand même des lieux qui déjà sont sensibilisés au socioculturel. Là,
fait.
Tu parles de la Maison de la Création, la Maison des Cultures de Molenbeek, qui mm-hmm. a une grande politique d'ouverture. Et j'ai l'impression que c'est très positif, d'ailleurs, ce qui se passe là-bas, que les habitants s'approprient quand même ce lieu. Bon, à part le Wills, qui certes est un centre d'art contemporain, donc qui a peut-être une image plus élitiste, mais qui a quand même cette volonté d'ouverture.
Tout à fait, puisque, en tout cas, donc, tu demandais, le projet a été très favorablement accueilli par les lieux. Évidemment, des lieux dont on savait qu'il y avait déjà un feeling, une sensibilité, il y avait déjà une expérience de travail avec ce type de public. Et Wills aussi. Et Wills, ça fait depuis 2 ans, ils ont mis en place, donc au-delà de leur travail avec le quartier, hein, mais spécifiquement avec l'alphabétisation, ils ont des visites guidées adaptées à ce public. Mais par ailleurs, ça fait 2 ans qu'ils organisent des ateliers d'initiation à l'art contemporain avec un groupe en alphabétisation. Et là, c'est des projets qui durent sur 1 an, donc une fois par semaine pendant 1 an, un groupe d'apprenants travaille avec des artistes plasticiens pour dans des ateliers d'expression. Donc c'est y compris le Wills qui en effet est un centre d'art contemporain et donc qui est dans cette posture de centre d'art à cette ouverture aussi au public alpha. Donc l'ensemble des lieux avait déjà cette expérience là et ce qui évidemment était un gage de confiance pour pouvoir travailler avec, en tout cas avec les mêmes valeurs, quoi.
Donc il y a plusieurs projets qui vont être présentés par lieu, puisque tu disais qu'il y avait 34 associations, 70 projets, donc plusieurs projets par lieu, comment ça va se présenter ?
Mais donc chaque lieu accueille évidemment plusieurs projets, plus ou moins selon leur capacité d'accueil aussi. Mais donc là, j'invite vraiment les auditeurs à aller sur le site internet du festival www.art-alpha.be, art au pluriel. Et là, ils vont pouvoir trouver toute la programmation par lieu, avec tous les détails des activités, des projets qui vont y être présentés, et y compris des numéros de réservation, parce que parfois certains spectacles ou certaines projections sont sur réservation. Et voilà, donc on peut peut-être annoncer, puisque Christine de Molenbeek Formation est avec nous, et Chloé qui a porté ce projet aussi au niveau du programme Sésame, mais que ce projet va être présenté... Au Brass, donc, puisqu'il y a une animation même.
Oui, je pense que Anne Guérin-Jean, qui a suivi le projet, va être présente mercredi.
Oui, et Rokia Bamba, qui est la formatrice française langue étrangère, qui sera là mercredi et jeudi. Non, jeudi et vendredi.
En tout cas, il y a une permanence, en fait.
J'ai précisément les heures sous les yeux. Donc, il y aura une présentation de ce projet le jeudi 7 juin à 13h et le vendredi 8 juin à 10h.
Donc, il y a autant la présentation des réalisations et des photos et aussi la projection du DVD qui a été réalisé, qui montre un peu la genèse du projet et les réalisations. Donc c'est...
Et le groupe qui a participé, qu'est-ce que vous avez organisé avec eux ?
Alors, le groupe, on va les emmener. Hein. Là, c'est vrai que, et c'est peut-être une petite parenthèse, mais parce qu'on parlait d'accès aux lieux culturels pour nos apprenants, c'est vrai que ce n'est pas encore toujours évident de leur dire, voilà, allez-y tout seul. Alors, si ça se passe à Molenbeek, ça va. Allez à l'autre bout de Bruxelles. Mais c'est aussi un peu une volonté qu'on a demandé d'ailleurs à Chloé de sortir un peu de Molenbeek. Maintenant, à voir. C'est vrai que c'est pas évident de les faire se déplacer encore de manière individuelle à ce genre de manifestations, donc ils vont y aller.
Déjà, j'imagine, c'est pas facile de reprendre contact, parce que en l'occurrence, ce projet a eu lieu de septembre à décembre 2011. Mmh. Les apprenants sont repartis dans leur quotidien hors de la classe, et voilà, c'est déjà toute une mobilisation de les.
Oui, c'est sûr, et c'est vrai que on n'a pas toujours l'occasion de coordonner de nouveau la rencontre avec tout le monde. Mais...
Je vois l'heure qui passe. Alors je me dis que je vais passer déjà presque aux conclusions. Pas vraiment en conclusion, parce que c'est plus les perspectives. Qu'est-ce que vous diriez aux associations qui ont envie de se lancer dans un projet culturel ? Parce que, bon, il y a plein d'associations qui font de l'alpha et rien d'autre.
D'abord, on l'a dit, c'est un pur bonheur pour les apprenants, c'est un pur bonheur pour les formateurs, je pense. Donc, rien que pour ça, ça vaut la peine. Maintenant, on a montré dans tout ce qu'on a dit l'importance de participer à ça. Moi, je dirais qu'il faut vraiment... Il faut le faire, et je pense qu'il y a énormément de partenaires possibles, que ce soit dans le milieu théâtral, audiovisuel, pictural, que ce soit des associations ou même des artistes à titre privé. Il y a énormément de possibilités. Il y a des soutiens comme l'ASBL Sésame. Nous, on travaille beaucoup avec Article 27, évidemment, pour l'accès aux lieux culturels. Enfin, il y a vraiment un champ de possibles et quelques, trop peu peut-être, mais quelques pouvoirs subsidiants aussi qui peuvent aider les associations là-dedans. Il y a des appels à projets d'Alpha Culture pour la communauté française, du FIPI pour le Fonds d'impulsion à la politique des immigrés. Enfin, il y a vraiment des possibilités. Ça demande énormément d'énergie, ça demande beaucoup de temps, mais c'est passionnant. C'est vraiment un grand bonheur. Donc, voilà.
C'est le combat du programme Sésame, hein, aussi, de donner le goût, de donner l'envie aux associations, aux différentes ASBL, de venir fréquenter les lieux culturels. Voilà. Après, c'est vrai que Christelle parlait de liens de confiance. Souvent, ça passe par là. On rencontre, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Christine, il y a une première rencontre avec le partenaire social. On fait une visite guidée. Et puis, dans un deuxième temps, ils proposeront... Mais venez d'abord dans l'association, nous présenter le musée, puis on vient par la suite. Et puis, voilà, 2-3 ans plus tard, on a des projets comme ça s'est mené à Molenbeek Formation, qui sont dans le long terme, qui sont engageants pour les formatrices et pour les apprenants. Et qui demandent, oui, une certaine confiance. Hein, entre les partenaires sociaux et les partenaires culturels.
Mais par rapport à comment donner envie, de façon plus générale, indépendamment du festival, On se rend compte, notamment dans les associations reconnues en éducation permanente, que les formateurs souvent hésitent à se lancer dans des démarches comme ça en disant « Oui, mais bon, pendant que je fais ça, alors les cours, ça n'avance pas, et le français, et comme si l'un était l'un exclu et l'autre. » Et j'ai envie de dire « Mais en fait, c'est tout l'inverse. Si on... » Ben voilà, on a donné plein d'exemples de différentes techniques ou médias qui pouvaient être investis dans le sein d'ateliers créatifs. Il n'y en a pas un qui ne développe pas l'expression et donc il n'y en a pas un qui ne va pas chercher la langue là où elle est. Pas un. Donc si on veut, j'allais dire, c'est presque l'inverse. Parfois, j'entends des formateurs qui disent « Oui, mais les apprenants n'apprennent plus. » J'avais envie de dire « Ben alors, il faut peut-être arrêter de vouloir leur apprendre des choses et les mettre juste dans des projets d'expression et ça va repartir comme sur des roulettes. Oui, »
parce que c'est vraiment voilà. Ça qui donne du sens aussi.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a envie de dire un petit quelque chose ?
Toute petite dernière chose, très concrète, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire aux formateurs ou aux artistes qui ont envie de se lancer dans ce genre de projet, c'est rendez-vous le mercredi 6 à la Maison des Cultures, entre 10h et 14h. Il y a un moment qui s'appelle Boîte à outils, où il y aura toute une série de partenaires artistiques, d'artistes, de musées, qui seront là pour montrer ce qui est possible comme collaboration. Et donc, concrètement, les associations pourront y trouver des conseils, des coordonnées, des outils pour pouvoir se lancer dans de nouveaux projets en espérant qu'il y en aura plein dans les années qui viennent pour qu'on puisse rééditer le festival d'ici quelques années.
Chloé, où est-ce qu'on peut trouver ton CD ?
Alors, si vous êtes intéressé pour ce DVD qui s'adresse aux formateurs en alpha et en FLE et sur le partenariat qui a été Molenbeek Formation, vous pouvez écrire un mail au programme Sésame ou appeler donc les musées royaux des Beaux-Arts. Voilà, on doit se quitter, je crois.
Oui, alors juste le mot de la fin pour moi, c'est qu'effectivement, il y a des projets de vie féminine qui participent. Il y a l'espace femme de Jette qui est à la Maison des Cultures avec une permanence jeudi matin. Il y a les maisons mosaïques de Laeken et Etterbeek, on en a parlé. Vous dire qu'on a une page Facebook qui s'appelle « Elles en parlent encore ». Et qu'on a des émissions en préparation et probablement une suite à cette émission-ci. Voilà. Alors, je vous remercie toutes.
Merci.
Merci à vous.
Voilà.
Merci.
Et à une prochaine fois.
Avec plaisir. Au revoir et bon festival, donc, à Réalpa.
Merci. Et bienvenue.